C'est vrai que parfois on me dit ah BlaBlaCar another night success. Je dis ouais, it was a long night. Ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu. C'est-à-dire que en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage,
elle n'est pas arrivée comme ça.
Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Et donc une fois qu'on a ça en tête, que l'entrepreneuriat c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit, bon, bah, chaque jour, je fais une petite marche.
Nous sommes avec Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar. BlaBlaCar, c'est 65 millions d'utilisateurs, une des rares licornes françaises. Entreprise valorisée à plus de 1 milliard d'euros, elle est implantée dans 22 pays et compte 400 employés. Au-delà de ça, ce qui est beau, c'est qu'il révolutionne l'économie collaborative et contribue à l'écologie. Frédéric est un homme brillant, humble et missionné. Nous avons vraiment aimé sa manière humble et pragmatique d'approcher son business. Vous écoutez le podcast Business Tribe.
Qu'est-ce qui te motive dans ce projet à la base? C'est créer une entreprise qui cartonne, c'est générer de l'argent. J'ai vu que tu as fait un test sur la confiance. Est-ce que c'est un mélange de plein de choses? Pourquoi tu fais ça en fait? Tu étais salarié avant, chercheur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu te dis je vais entreprendre et je vais, peu importe le temps que ça prend, ça marchera?
Bah, en fait, dans tout mon parcours, il y a quand même une constante qui est créativité et recherche. Ça revient quand même souvent. Et donc, apprendre. Ce qui m'anime énormément, c'est d'apprendre chaque jour. Je vais pas aller chercher à reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Je vais chercher à aller faire quelque chose qui n'a pas été fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus marrant. Et intellectuellement, ça va beaucoup plus me satisfaire. Et je vais surtout chercher à apprendre chaque jour. Je sais que quand on crée, on apprend énormément. Mais il y a aussi des manières d'apprendre, en regardant évidemment comment on fait d'autres. Et ça, je passe mon temps à regarder comment d'autres ont fait. Mais il y a, on va dire, la moitié ou les trois quarts des choses, on va pouvoir apprendre en regardant ce que d'autres ont fait. Et puis il y a une partie où il va falloir aller créer pour justement aller faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Mais par contre, ça sert à rien d'aller réinventer une nouvelle méthode pour faire quelque chose que quelqu'un a déjà trouvé.
Ouais,
mon vrai moteur, c'est d'apprendre, de même pas avoir l'impression de travailler tellement je me fais plaisir tous les jours. Donc ça, c'est un moteur un peu personnel. Mais après, ce qu'il me faut pour apprendre, il me faut quelque chose qui me tire. Et ça, après, c'est la mission et c'est la vision.
Et c'était quoi pour toi la mission et la vision d'entreprise à ce moment-là, ou de toi, ou ta mission ou ta vision?
C'est-à-dire, j'avais pas forcément une vision entreprise. J'avais une vision vraiment mission.
Comment tu décrirais ça?
Les voitures vides. Enfin, remplir les voitures. Pour moi, c'est un gâchis. C'est-à-dire que les voitures vides qui se déplacent avec des places libres.
C'est un gâchis à quel niveau? Écologique? C'est un gâchis.
Tout en fait.
T'avais avant l'idée de BlaBlaCar, cette idée d'éviter le gâchis d'énergie à tout niveau. C'est quelque chose que t'as découvert en ayant l'idée de BlaBlaCar, tu t'es rendu compte de la portée que ça pouvait avoir. Est-ce que tu conseillerais à l'entrepreneur de dire, entre guillemets, ne démarre pas dans un projet si à la base ça te fait pas vibrer, c'est pas une mission pour toi?
Je pense que de toute manière, quelle que soit l'idée, qu'elle soit ancienne, ancrée ou nouvelle, et il faut qu'on l'ait chevillé au corps parce que ça va être de toute manière tellement difficile et passer toutes les épreuves va demander tellement d'énergie que si on n'a pas la mission chevillée au corps, on ne passera pas à ces épreuves-là. Donc il faut avoir ça pour pouvoir passer toutes les montagnes qui vont se présenter sur la route. Ensuite, moi, personnellement, c'est vrai que tout ce qui est gâchis a toujours été quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai toujours fait attention à ne pas générer de gâchis inutiles. Ouais.
Donc si demain, par exemple, tu crées un autre business, il y aurait certainement cette notion-là qui reviendrait, cette notion de...
J'aimerais bien. La problématique après, c'est d'avoir la bonne idée quand même. C'est pas tous les jours. Quelque chose comme ça me motiverait énormément. Cela dit, il faut aussi que je me dise que c'est pas juste une chimère et que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la vie réelle pour pouvoir avoir un véritable impact. Sinon, ça restera un doux rêve.
C'est super intéressant ce truc-là parce que ton business, comme ça, il grandit tranquillement. Il prend de la place. Il y a plein de personnes, je vois, ils partent vers une opportunité, et puis après, il y a une chimère qui est là, et ils partent vers une autre opportunité, et en fait, quand tu regardes 5 ans plus tard, ils sont partis dans plein de directions, et pas dans une qu'ils ont construite. Est-ce que pendant que tu crées BlaBlaCar, avant qu'on puisse considérer que c'est une réussite, est-ce que des fois, t'es tenté de partir dans plein de directions et d'arrêter? Comment ça se passe pour toi?
Alors, non seulement tu es tenté de partir dans plein de directions, mais en plus, t'as des gens qui veulent que tu partes dans toutes les directions tout le temps. C'est-à-dire, ils disent, ton truc, ça marche super bien. Non, mais plein de d'activités, on va dire, connexes, ou un peu dans l'état d'esprit, ou un peu dans quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Alors que toi, t'es en pleine croissance, et que déjà, c'est compliqué de supporter cette croissance-là, ils te demandent de porter leur activité en disant, mais attends, on fait un partenariat, et puis comme ça, c'est gagnant-gagnant. Sauf qu'en fait, très souvent, c'est plutôt, pour nous, ça nous ralentirait. Et pour eux, évidemment, ce sera un accélérateur. Mais la difficulté, c'est justement de faire comprendre aux autres qu'on a déjà notre propre mission et notre focus à avoir, sans quoi nous-mêmes on ne sera pas assez solide pour pouvoir supporter quoi que ce soit, parce que quand on est un petit champignon qui grandit, c'est pas le moment d'aller mettre du poids dessus. Et donc ça, les tentations d'aller faire autre chose, elles sont légion dès que le projet commence à marcher, parce que tout le monde vient à vous en voulant s'accrocher à la fusée qui décolle. Sauf que si on s'accroche à la fusée qui décolle, elle décolle plus.
C'est clair.
Enfin, surtout si on laisse tout le monde s'accrocher dessus, quoi.
Là, c'est super important. Darren Hardy, qui était l'ex-PDG de Success Magazine, que je lui avais demandé s'il y avait un conseil que tu aurais à me donner en tant qu'entrepreneur, il m'avait dit « apprends à dire non ».
Exactement, exactement. Mais ça, apprendre à dire non, il y a plein de manières de dire non. Hein. Il y a plein de manières de dire non et toutes sont, enfin, il y en a plein qui sont très élégantes. Faut expliquer, faut pas juste dire non.
Oui, c'est pas que je te dis non, c'est que je dis surtout oui à quelque chose d'autre qui est important pour moi.
Ça rentre pas, je peux pas. Là, tu m'en demandes trop. Puis en plus, très souvent, il faut voir que, et ça c'est marrant aussi, on apprend au fur et à mesure, mais c'est la conscience de l'équilibre dans une relation avec un partenaire. Et très souvent, les demandes, quand elles arrivent comme ça, moi je suis étonné de voir à quel point les gens pensent toujours à l'avantage qu'ils vont tirer de la relation avec toi.
Et pas à l'avantage pour l'autre.
Ils se mettent pas à ta place en disant, bah oui, mais tu comprends, si je fais ça, en fait, pour moi,
c'est une perte.
Alors ils disent oui, mais tu peux bien. Mais non, je peux pas, en fait. Je suis déjà à la limite de la performance et de mon focus. Donc non, je ne peux pas. Et ceux qui ont l'opportunité de faire des belles relations, des beaux partenariats, sont ceux qui arrivent à se mettre dans les chaussures de l'autre et à proposer quelque chose qui soit équilibré et qui soit pas juste donne-moi, mais qui soit véritablement, regarde, si on fait ça, ça t'apportera ça.
C'est équitable.
Et c'est équitable, parce que les relations équitables, d'une part, elles durent, et d'autre part, elles se passent tout court.
Et donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui t'as systématisé quand t'as un nouveau partenariat, toi, à faire. Donc, t'es dans la posture de toi qui va demander, avant de te demander, je me mets dans la tête de la personne, qui elle est, c'est quoi ses besoins, et je vais lui faire une proposition qui montre qu'elle va gagner, en fait.
Exactement, mais ça va plus loin qu'un partenariat, ça va jusqu'à faire un produit qui marche. Faire un produit qui marche, c'est d'abord penser à ceux qui vont l'utiliser. C'est pas penser à soi. Donc, on a une valeur chez BlaBlaCar qui dit « be the member ». On est nous-mêmes les membres. On fait beaucoup de covoiturage, moi-même j'en fais très souvent. Et du coup, ça permet d'être le client le plus exigeant de son service et de vouloir toujours l'améliorer et de se mettre véritablement dans les choses de ses clients. Ça, c'est très important pour la réussite du business et pour la réussite des partenariats. Pensez toujours à ce que l'on va pouvoir apporter à l'autre et parfois même avant ce qu'on va pouvoir, ce que l'autre va pouvoir nous apporter.
Si tu aimes ce podcast et que tu es intéressé pour participer à notre prochain événement business avec des entrepreneurs toujours plus inspirants, clique sur le lien dans la description de l'épisode pour t'inscrire ou recevoir plus d'informations.
Dans un monde où les choses vont de plus en plus vite, et je vois de plus en plus de jeunes qui veulent démarrer l'entrepreneuriat en pensant qu'ils vont être en un an, en deux ans, le prochain Facebook. Pendant ces 4 ans-là, ça te paraît long? Qu'est-ce que tu te dis, en fait?
Moi, je me suis pas posé la question de la longueur, parce que de toute manière, je savais qu'au bout, ça devait marcher.
Okay.
Ça prendrait un certain temps. C'est vrai que parfois, on me dit, BlaBlaCar, another night success. Je dis, it was a long night. Enfin, ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu, hein. C'est-à-dire que, alors, une autre manière de le voir, c'est que, en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage...
Elle n'est pas arrivée comme ça.
Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Elle a monté tous les escaliers, un par un. Puis parfois, c'est 2 marches en avant, 3 marches en arrière, et puis on recommence. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, que l'entrepreneuriat, c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit, chaque jour, je fais une petite marche, ça va dans le bon sens, c'est bon, je monte.
Selon toi, qu'est-ce qui a fait la réussite de BlaBlaCar? C'est des choses où tu te dis, tiens, ça a été clé dans notre réussite.
Non, je pense que déjà, il y a un moment pour faire les choses. C'est-à-dire que le moment où j'ai démarré BlaBlaCar, c'était peut-être même un peu tôt.
Mais
c'est mieux d'être un petit peu tôt que d'être un petit peu tard. Par rapport au moment auquel on a une convergence à la fois des technologies qui permettent de faire ça et du bon sens qui nous dicte que c'est ce qui va se passer. Donc, il y a une opportunité de marché qui se présente. Enfin, maintenant, on dit que c'est un marché, mais au départ, c'était juste une idée. Et il y a la technologie qui est là pour pouvoir accompagner ce changement-là. Donc, c'est vraiment une opportunité. Il y a une citation de Victor Hugo que j'aime bien qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je pense que le temps du covoiturage était venu et il fallait l'exécuter. Et donc, c'est cette conviction-là qui a fait que on a pu bien se motiver pour la réaliser. Au-delà de ça, c'était le bon moment.
Donc, il y a un facteur qui était le fait d'avoir le bon moment. Est-ce que tu verrais d'autres facteurs qui t'ont permis
Après, il faut bien s'entourer. Ouais. Il faut être avec des gens passionnés qui ont la mission chevillée au corps comme soi-même, qui ont des compétences complémentaires. Il ne faut pas se marcher sur les pieds. Donc, il faut avoir des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire.
Tu parles
en tant qu'associé, ouais. Ensuite, il faut être prêt à tout faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on est expert d'une seule chose. Quand il y a une compétence que l'équipe n'a pas, il faut que le fondateur, il le fasse.
Comment c'était le tout début de BlaBlaCar, en fait? Vous étiez juste les trois? Vous étiez trois dès le début? C'était comment?
Au tout début, j'ai appelé mon meilleur copain Damien, pour qu'on commence à coder ensemble. On a commencé à coder tous les deux. Ça a duré une petite période qui a duré 2-3 ans, où on a développé une première version du site. J'avais racheté une URL qui était covoiturage.fr, qui était dispo, pour pouvoir déployer justement l'algorithme de covoiturage qu'on avait codé avec Damien. Petit à petit, j'ai rencontré Francis, cofondateur, plus technique justement, lui qui est venu prendre la relève sur tout ce qui était développement, parce que moi je savais développer, mais enfin j'étais pas du niveau du tout de Francis. Ensuite j'ai rencontré Nicolas plutôt à l'INSEAD. J'ai fait un MBA à l'INSEAD, moi plutôt pour tout ce qui est côté entrepreneuriat et business, parce que j'avais une formation très technique. En fait, une formation de départ qui était plutôt maths sup, maths spé, puis ensuite par la recherche en physique, et ensuite j'ai fait de l'informatique à Stanford, mais c'était très académique. En sciences et pas en business. Et donc du coup, je suis allé faire un MBA à l'INSEAD. Là, j'ai rencontré Nicolas, qui m'a ensuite aidé à développer plutôt l'internationalisation et puis aussi les levées de fonds, tout ce qui fait que on arrive à faire grandir une idée.
Et à ce moment-là, BlaBlaCar, vous êtes que entre associés ou vous avez déjà des collaborateurs qui ont intégré et qui vous aident?
Déjà des collaborateurs, c'est-à-dire que la première personne qu'on a recrutée, c'était Laure en 2009. Et ensuite, en 2010, on devait être une dizaine. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit. Hein.
Donc entre 2006 et 2010, ça grandit tranquillement, c'est ça?
Déjà, il faut faire un produit qui trouve son public, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui l'utilisent trouvent que ça marche. Et ça prend plusieurs années. C'est une sorte de période d'incubation, de convergence du produit avec sa finalité et le fait qu'il est facilement utilisable.
Est-ce qu'au début du projet, il y a eu des personnes qui t'ont dit « abandonne, ça ne marchera pas, c'est une mauvaise idée, le monde n'est pas prêt, c'est n'importe quoi, pourquoi pas des potentiels investisseurs, des amis, de l'entourage » Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ça?
Je pense que pour une personne qui le dit, il y en a 50 qui le pensent. C'est-à-dire que
qui est le porte-parole des 50 autres.
Il y en a peu qui m'ont dit ça marchera pas, mais il y en a plein qui m'ont fait un visage plein de compassion et dans les yeux desquels je pouvais lire que ils n'étaient pas convaincus du tout, y compris des gens proches, enfin des amis qui peuvent vous regarder comme ça en disant ah ouais. Puis alors on sent bien que ce qui se passe.
Mais surtout qu'en 2006, le monde il n'est pas habitué
non,
à ce monde
d'échange. Déjà les plateformes pas trop, et puis consommation collaborative, le terme n'existait pas puisque ça date de 2011, hein. Ça a mis un petit peu de temps.
Et toi, tu te dis quoi quand tu vois dans les yeux de certaines personnes qui sont proches et qui t'aiment et qui quelque part doutent, mais c'est pas contre toi, c'est plus qu'elles ont du mal à voir ce que toi tu vois. Est-ce que toi ça te fait douter? Comment tu le vis en fait, ce regard de l'autre?
Ça force à articuler des raisons, enfin de la rationalité autour de l'intuition. Ça force à développer les arguments qui font qu'on va pouvoir expliquer pourquoi ça va marcher et pas juste dire j'y crois. Bon, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut croire à la mission et à l'objectif, mais en même temps, c'est pas le fait d'y croire qui va emmener beaucoup de gens très articulés et rationnels autour du projet pour lui donner sa réalité. Donc il faut être capable de l'articuler, ça rejoint tout ce qui est storytelling.
Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi la place que tu vois dans le storytelling par rapport à cette phase dans ton business, et même aujourd'hui, quelle place tu verrais au storytelling en tant qu'entrepreneur?
Je pense que justement, le storytelling, c'est ce qui permet de passer d'une idée à une réalité, parce que sinon, l'idée reste idée dans sa propre tête et ne devient pas quelque chose qui a sa propre vie dans notre société. Et donc, la première étape pour passer une idée vers la société et lui donner une chance de réussir, c'est d'aller justement la raconter, l'articuler, donner les arguments qui vont faire qu'on va réussir à convaincre d'autres personnes qui elles-mêmes vont développer évidemment leurs convictions suite à l'exposition des arguments pour lesquels cette vision-là va s'articuler et se passer.
Et comment tu faisais? À chaque fois que tu la racontais, tu te faisais un auto-feedback pour dire tiens, je peux la raconter d'une meilleure manière?
Oui.
Pour améliorer la manière que tu avais d'articuler ton intuition, comment tu t'y prenais?
En fait, effectivement, plus on répète l'histoire, plus on voit déjà les arguments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, et puis ça dépend des personnes aussi, ça dépend des sensibilités, ça dépend des parcours, des expériences. Les cordes sensibles des uns et des autres sont pas les mêmes. Donc en fait, on finit par avoir une palette de 150 arguments qui expliquent pourquoi le covoiturage va marcher. Mais certaines personnes vont être sensibles à 2, 3, 5 arguments, ceux-là, mais pas d'autres. Et donc en fait, suivant les personnes qu'on a en face, il va falloir employer ces arguments-là. Enfin, l'extrême, c'est on va pas convaincre quelqu'un que le covoiturage va marcher quand c'est quelqu'un qui va faire du covoiturage ou quand c'est quelqu'un qui va investir sur BlaBlaCar. C'est pas du tout les mêmes leviers.
Ouais.
C'est pas la même chose qui va convaincre l'un et l'autre. D'un côté, on a un utilisateur, de l'autre côté, on a un investisseur. Les deux ont une partie de la réalité et des arguments qui font que ça va marcher, qui sont complémentaires, mais en tant que fondateur, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller donner les bons arguments aux bonnes personnes pour les convaincre un par un.
Cool, j'aime beaucoup ça. Une question aussi que j'avais, est-ce que dans ton parcours là, avec BlaBlaCar, ou d'ailleurs d'autres business, il y a eu une difficulté qui a été plus difficile à gérer et comment tu l'as dépassée, transformée? Mon intention via ça, c'est de partager des difficultés qu'on peut rencontrer dans son parcours entrepreneur et quelle est la manière que toi, tu as, et d'autres entrepreneurs d'ailleurs, d'y réagir, d'apprendre de ça, de dépasser. Parce que des fois, il y a des personnes, tu parlais d'overnight success, qui se disent « Ouais, bon, moi, les entrepreneurs qui réussissent, c'est soit de la chance, ou alors c'est des génies, ils sont nés comme ça. » Et ça fait des fois beaucoup de bien aux personnes d'entendre qu'il y a des difficultés, pas forcément faciles à vivre, et que parfois, la clé, c'est d'apprendre, grandir de ça, transformer. Est-ce qu'il y aurait eu, dans ton parcours, un moment qui a été plus difficile et comment tu l'as dépassé?
Déjà, il y a un état d'esprit. C'est-à-dire que les problèmes, enfin, si on n'aime pas les problèmes, il ne faut pas être entrepreneur. Parce que, justement, ça va être une collection de problématiques à résoudre. Ça va être que ça. Donc, quand on comprend que la valeur ajoutée de l'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes, quand il y a un problème qui arrive, on se dit, bon, donc c'est le moment.
C'est ma mission.
C'est ma mission. Hein, c'est le moment où je vais montrer ma valeur ajoutée. Si, quand on voit un problème, on se dit, oh non, encore un problème,
on
s'est trompé de métier.
Ouais.
On s'est trompé de métier. Parce que justement, si c'était simple, ce serait déjà fait, ça existerait déjà. Enfin, voilà. C'est justement parce que c'est compliqué qu'il y a besoin que quelqu'un se tape la tête dessus pendant assez longtemps pour y arriver. Donc, de la même manière qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers, je pense qu'il faut comprendre que c'est parce qu'il y a des problèmes qu'il y a une opportunité justement à aller créer quelque chose de nouveau. Si on cherche juste à avoir une activité qui marche très très bien, toute seule, sans aucun problème, en fait, on rêve. Je sais pas, c'est la suite du Père Noël et du Loto, qui sont déjà deux choses qui, je pense, modifient pas mal, malheureusement, notre perception d'une réussite sans effort.
Et toi, t'as un exemple comme ça d'une difficulté qui, sur le coup, était plus difficile que les autres, en tout cas dans ta perception, et de comment tu l'as dépassé? Les gens adorent les histoires, c'est pour ça un exemple comme
une
ça.
Une plus que d'autres. Convaincre les premiers employés, c'était quand même compliqué.
Raconte-nous.
Ouais, y a plein de gens que j'ai pas réussi à motiver parce qu'ils se disaient, donc il a pas d'argent, il est tout seul. Ah non, il y a un truc comme ça. Un journaliste, une fois qui vient me voir, c'était assez tôt, ça devait être 2008-2009. Il vient me voir, puis il me demande le concept, tout, je lui explique. Et à un moment, il me résume la situation comme ça. Il me dit, bon alors, si je résume, vous êtes tout seul, il y a quasiment personne sur votre site, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, les peu de personnes qui se présentent sur votre site ne payent pas. Vous comptez tenir combien de temps? Et là, j'étais un peu à bout d'arguments. Enfin, on en parlait tout à l'heure sur le storytelling. J'ai écouté, mon nom de famille, c'est Mazzella. J'ai des origines italiennes, je peux manger des pâtes pendant 10 ans. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Donc, faut prendre les choses avec humour et voir où sont ses avantages. Moi, mon avantage, c'est que j'adore les pâtes. Donc, effectivement, je peux manger des pâtes pendant 10 ans.
Pas besoin de beaucoup d'argent pour survivre.
Exactement. C'est une bonne règle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la bonne règle pour pas perdre d'argent, c'est de commencer par pas trop en dépenser, quoi. Parce que, au début, innover, ça prend du temps. Et donc, il faut se mettre dans une situation dans laquelle on va pouvoir rester assez longtemps sans perdre d'argent pour arriver au moment où on a un produit qui fonctionne et qui va pouvoir commencer à décoller. Commencer un projet en se disant, bon, alors je vais dépenser tant par mois et tant beaucoup, c'est-à-dire ne nous permettant pas de tenir ne serait-ce que 18 ou 24 mois, c'est très dangereux parce qu'on se met dans une situation où évidemment les coûts sont très prévisibles, mais les revenus le sont moins. Et donc, on va se retrouver avec une cisaille, c'est-à-dire que les coûts, ils vont évoluer comme prévu et les revenus, en général, ça prend plus de temps.
Ça prend plus de temps, c'est clair. Comment aujourd'hui vous avez créé une culture d'entreprise? Comment tu t'y prends en termes de management aujourd'hui dans ton entreprise pour arriver à créer une culture où les personnes elles ont envie d'avancer avec l'entreprise, elles sont connectées à la mission? Est-ce que tu as des astuces, des choses qui ont mieux marché, d'autres choses qui ont moins marché pour créer cette culture? Tu parlais au début, c'est dur de donner envie aux gens de te suivre. Comment vous y prenez aujourd'hui?
En fait, au fur et à mesure des années, et c'est vers 2012-2013, on s'est rendu compte que la culture était quelque chose d'implicite. Jusqu'à ce qu'on soit 40-50 dans une société, la culture est assez implicite. Pourquoi? Parce que on connaît tout le monde, on interagit tous les jours avec tout le monde. Et en plus, quand on est une boîte d'une nationalité, on a la même culture, donc on se comprend très facilement. Là où on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose au niveau de la culture, et l'explicité, c'est quand on a commencé à avoir plusieurs nationalités dans la société, aussi plusieurs bureaux physiques à différents endroits, et dépasser 50. Et là, on s'est dit, ah, attention, parce qu'en fait, on n'a pas tous la même conception de la manière la plus souhaitable de travailler ensemble. Et donc, en fait, il faut qu'on s'aligne sur ce qui nous anime vraiment et sur ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble. Et donc on est passé dans une étape où on a explicité nos valeurs. C'est là qu'on a sorti une dizaine de valeurs. On les a appelées des valeurs, aujourd'hui on les appelle des principes, enfin c'est pareil.
Par exemple, un ou deux, c'est quoi par exemple?
Fun and serious, par exemple.
Ok.
C'est yin et yang un peu de l'entrepreneuriat, il faut les deux. Une entreprise fun and fun, elle dure pas longtemps.
Elle reste au stade de bébé quoi.
Ça marche pas. Une entreprise serious and serious, personne n'a envie de bosser pour elle. Une entreprise fun and serious, elle fait les deux, c'est-à-dire qu'elle allie le meilleur des deux mondes. Elle est à la fois sérieuse, donc elle livre ce qu'elle promet, et elle est fun, c'est-à-dire que bah, nous, on prend du plaisir à construire tout ça ensemble. Et en faisant les deux, eh bien, on a un moteur qui commence à marcher. Notre valeur, c'est fail, learn, succeed, dans lequel il y a learn entre fail et succeed. Donc, il y a vraiment le chemin entre l'échec et la réussite, c'est l'apprentissage. Fail, learn, succeed. C'est-à-dire apprendre des erreurs. Même quand on ne perd jamais, c'est-à-dire qu'on a au moins l'apprentissage de cet échec.
Donc vous encouragez la notion de faire des erreurs dans l'entreprise?
Oui, évidemment en calculant les effets de ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des erreurs, ce qui ne prête pas à fortes conséquences. Mais en tout cas, il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on risque de failer. J'avais un prof de piano jazz qui s'appelait Claude Terranova qui m'avait dit une fois une chose, j'avais 18 ans, je prenais des cours de jazz avec lui. En fait, je devais passer un morceau et puis un passage du morceau qui était assez compliqué et j'y arrivais pas. Et je commençais à m'énerver parce que je n'y arrivais pas. Parce que des fois, enfin, pour ceux qui font de la musique, quand on veut passer quelque chose et que
ça
se passe
pas.
Quelque chose entre le cerveau et les doigts et qu'en fait ça passe pas, c'est très formateur pour la patience, pour l'apprentissage. Et ce prof-là voyait que je m'énervais, il me dit « Attends Fred, arrête. » Il me dit « Tu sais, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Et avant de le savoir, il faut apprendre. Donc là, tu es en phase d'apprentissage, ça sert à rien de t'énerver. Tu es sur le passage entre « je sais pas » et « je sais ». Et donc là, pendant cette période-là, il faut que tu acceptes que ça va prendre un peu de temps et que tu vas comprendre, apprendre comment ça marche et ensuite, tu sauras le faire. Mais il ne faut pas croire que celui qui sait le faire, il y est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Et ça, je pense que ça s'applique à beaucoup de choses avant de savoir.
C'est quelque chose auquel tu as repensé cette histoire dans ta vie
d'entrepreneur? Ah oui, très souvent. Bah, très souvent, parce que l'entrepreneuriat et l'apprentissage, c'est beaucoup, beaucoup de ça. C'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire et qu'il va falloir apprendre à faire. Il faut avoir la patience d'y arriver. Et ça va être par petite adaptation, parfois avec une très bonne idée au milieu, tac, donc du coup on gagne un peu de temps, enfin on se dit « Ah, si je fais comme ça, ça va être mieux ». Après on essaye, on pense avoir une très bonne idée, puis en fait, ça marche pas. Et donc du coup, il faut recommencer, il faut faire autre chose.
Pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est important d'être à l'aise avec faire des essais qui peuvent amener à faire des erreurs, apprendre le plus vite possible de ces erreurs et recommencer jusqu'à réussir.
Ouais, il faut aimer apprendre et il faut pas s'attarder sur quelque chose qui n'a pas marché. Quelque chose qui n'a pas marché, c'est quelque chose duquel on a appris.
Est-ce que parfois tu rencontres des personnes où tu te dis elles ont tout pour réussir, mais il leur manque 2-3 trucs et ça explique pourquoi elles n'y arrivent pas dans leur projet entrepreneurial? C'est-à-dire tu interviens dans un salon d'entrepreneurs, tu rencontres des gens et en les rencontrant, tu te dis la personne en elle-même, elle a beaucoup de choses pour réussir, mais il lui manque 1, 2 ou 3 trucs qui font que là, si elle reste comme ça, ça ne marchera pas. Parce que tu vois des choses qui seraient vraiment à éviter en tant qu'entrepreneur pour réussir ou des erreurs qui vont nous amener à échouer si on ne les réalise pas en fait.
Je pense que ne pas se préparer à être patient, c'est une bonne source d'échec. Ouais. Il faut créer les conditions pour pouvoir être patient. Si on est trop impatient, on n'arrivera pas au bout de la chose. Et donc, comme en général, ça démarre jamais aussi vite que ce qu'on espère, on n'y arrivera pas tout court. Il y a une autre chose qui peut faire qu'on échoue, c'est, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas suffisamment penser au client et à la personne qui va utiliser le produit. Ne pas se mettre vraiment à sa place.
Donc ça veut dire quoi? Par exemple, je prends du plaisir à me créer le produit qui me plaît, mais j'en oublie, est-ce que ça plaît vraiment aux gens? C'est par exemple, c'est ça?
Exactement. Et là, à ce moment-là, on reste dans son propre délire d'un produit qui est compliqué à utiliser, mais qui fait plein de choses. Mais par contre, il faut savoir, faut appuyer là, puis finalement, ça fait un truc. Sauf que personne ne trouve la recette, quoi. Et donc, il faut simplifier. Et simplifier aussi, ça veut dire parfois faire des choix, justement, et donc abandonner certaines choses et se concentrer sur ce qui marche vraiment. Donc voilà, faire quelque chose de trop compliqué peut être une
grosse
source d'échec, ouais, et pas simplifier assez. Simplifier, ça veut dire, abandonner des pistes, ça veut dire rester focus.
Comment on sait, parce que c'est que des fois, quand on est passionné par son truc, on veut rajouter telle caractéristique, comment tu te dis, l'essentiel de mon produit, c'est ça en fait?
Alors, il faut quand même avoir sortir une première version sur laquelle on a une certaine intuition, mais il faut bien se dire que la moitié de l'évolution produit viendra des premiers utilisateurs. Donc, il faut passer beaucoup de temps avec les premiers utilisateurs. Les tout premiers.
Quand ils vont vous dire. Beaucoup de temps, c'est les appeler.
Les appeler. Moi, je passais des week-ends entiers à les appeler. Ouais. Les appeler pour leur demander ce qui allait pas, ce qu'il faut améliorer. Et en fait, on n'a pas besoin de prendre des notes parce que quand on appelle 10 personnes d'affilée, quand il y a quelque chose vraiment à changer sur le service,
flagrant.
C'est tout de suite. C'est-à-dire qu'on passe des coups de fil comme ça, 2, 3, 4, et le quatrième, il commence sa phrase, on dit oui, je sais. Je sais, c'était juste le quatrième à me le dire. Là, ça y est, j'ai compris.
Et là, tu sais que c'est vraiment important.
Et là, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu mettes sur ta roadmap juste après.
Est-ce que tu vois des entrepreneurs qui, justement, pour peu importe la raison, égo, la difficulté à entendre des feedbacks désagréables, prennent pas assez de temps d'écouter leurs clients sur ce qui marche pas, en fait?
C'est possible, ouais. Je pense qu'une des grandes qualités pour pouvoir grandir, c'est justement de savoir prendre les feedbacks sans les juger. En tout cas, pas sur le moment. C'est reprendre les feedbacks et surtout ne pas empêcher les gens de nous donner des feedbacks. Parce que si on est dans une logique où quelqu'un commence à donner un retour et on le bloque en lui disant « Non, mais attends, t'as pas compris, c'est comme ça que ça marche. » On se bloque d'une richesse incroyable. Et donc, en fait, il faut être dans l'écoute complète, être prêt à prendre n'importe quelle critique, y compris difficile à entendre sur son service, s'en détacher un petit peu, parce que sinon, comme en général, quand on crée quelque chose, c'est extrêmement émotionnel. On y a mis un peu de ses tripes, donc on a l'impression qu'on se fait juger en tant que personne,
bébé,
alors que non. Et donc, on s'en détache, on prend tout, à la limite, on note, et puis après, au calme, on repasse. Il faut surtout essayer de comprendre pourquoi la personne a dit ça. En fait, un client qui se plaint a toujours raison. Déjà, on part de là. Un client qui se plaint a toujours raison, de son point de vue. Donc du coup, rien que pour ça, on peut l'écouter. Et après, il faut composer avec les raisons de sa plainte pour comprendre comment on va pouvoir faire évoluer la chose, pour que ça ne se reproduise plus, pour que ce soit mieux.
Top. Dernière question comme ça qui m'est venue, j'ai vu que tu citais en mentor un de tes investisseurs. Est-ce que c'est important pour développer une startup qui réussit de bien choisir ses investisseurs au-delà de leur capacité à mettre de l'argent sur l'entreprise?
Oui, énormément. En fait, c'est... Ça rejoint un autre principe très important. C'est important de choisir, de s'entourer des personnes avec qui on va passer beaucoup de temps, qui correspondent à notre vision. C'est désagréable de passer beaucoup de temps avec quelqu'un qui ne partage pas l'envie d'y arriver et la convivialité des échanges constructifs. Donc, c'est tout simplement important de bien choisir les personnes avec qui on va passer beaucoup de temps. Ben ça, c'est vrai pour toute la vie. Hein.
Il faut
bien choisir son conjoint. Hein.
Ouais, c'est clair.
Parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Donc, il faut bien choisir ses collaborateurs, il faut bien choisir ses investisseurs, il faut bien choisir tout. Parce que sinon, comme c'est des personnes avec qui on va passer beaucoup de temps, ben on va passer beaucoup de temps désagréable si on les a mal choisis.
Et toi, tu étais à l'aise de... Parce que je vois des startups qui, des fois, vont avoir des investisseurs, mais vont pas forcément être à l'aise à les appeler. Tu étais à l'aise à appeler tes investisseurs pour demander du feedback, des conseils?
Bien sûr. Bah, c'est même ce que j'allais et que je vais toujours chercher. Parce que, en fait, faut voir que les investisseurs, ils ont l'habitude de voir plein d'entrepreneurs, plein de sociétés. Et ils en voient plein.
Échouer. Et plein réussir.
Plein.
Certaines.
Malheureusement, un peu moins réussir. Mais en tout cas, ils ont un panorama, des choses à ne pas faire.
qui est intéressant.
Bah, ils ont des bibliothèques entières de ce qu'il faut pas faire.
Et donc, t'as un truc comme ça qui t'a été dit par un mentor
aussi.
Qui t'a été dit par un de tes mentors de vu la direction que vous prenez, il vaut mieux vous faites attention à pas faire cette erreur là, un truc comme ça qui t'a été transmis.
Il y a focus. Voilà, celui-là, focus.
Donc la respecter jusqu'à ce que tu l'entendes.
Ah, oui. Non, la Fred focus. Oui. C'est normal parce qu'en plus, en étant un peu créatif, on a envie de faire plein de choses.
Oui.
Mais c'est pas en essayant 50 trucs qu'on va réussir à faire une chose qui compte. Donc il faut vraiment concentrer son énergie sur une chose.
Alors, ok, dernière question du coup, parce que la notion de focus, elle est fascinante en même temps, elle est, je trouve, complexe des fois à toucher du doigt. J'ai vu que vous avez changé, si j'ai le bon chiffre, 6 fois de business model.
Ouais.
Comment tu trouves l'équilibre entre j'ai un business model, je vais me focus dessus, c'est lui, c'est le bon. Et je suis prêt à le lâcher à un moment donné, quelque part changer un peu de focus, vers un autre business model. Comment on joue là-dedans il est temps qu'on arrête cette stratégie.
Alors, je crois que c'est Héraclite qui a dit ça. Quand les faits changent, je change d'avis. Donc, mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas les faits, typiquement, on croit à un business model. On peut prendre cet exemple-là, mettons. Voilà. On croit à un business model, on y croit, on le met en place, il ne marche pas.
Donc quand tu dis il marche pas, pour qu'on soit d'accord, c'est que t'as pas les rentrées d'argent que tu veux ou t'as pas assez, il y a pas assez d'acquisition de clients par exemple.
Ouais, y a plein de manières de pas marcher.
Ouais.
En gros, globalement, c'était censé être quelque chose qui allait permettre à la société de grandir parce que ça fait des revenus qui permettent de réinvestir et de faire monter la machine. Et non. Bon, quand ça marche pas, c'est un fait. Du coup, on a un fait. Au début, on a une intuition, on se dit ah tiens, ce serait bien d'essayer ce business model. On essaye vraiment, mais faut y aller à fond. Justement, il n'y a pas d'autre manière que d'y aller à fond. Donc, on y va à fond, et si après, ça ne marche pas, ça devient un nouveau fait. Ça devient un fait, ça devient ce business model ne marche pas. J'ai essayé.
C'est arrivé d'être entre les deux, c'est-à-dire qu'il, c'est pas qu'il marche pas, mais il marche moyen.
Ah oui, alors ça, c'est le cas le plus difficile, quand ça marchouille. Et quand ça marchouille, on peut le garder un petit peu sous la main pendant un petit moment, mais faut vite trouver une autre idée.
Et du coup, quand ça marchouille, tu améliores le truc qui marchouille ou tu te dis, virage, on va vraiment ailleurs?
Non, tu penses au truc qui va marcher. Tu te dis, bon, j'ai ça, ça marchouille très bien, mais alors ça va pas durer longtemps. Faut que je pense à l'étape d'après.
Elon Musk, il dit que les gens passent trop de temps à essayer de répondre aux questions plutôt que de poser la bonne question. Est-ce que ça te parle que cette idée de formuler clairement la question que je me pose pour résoudre le problème?
C'est plus dur de poser la question que d'y répondre en général. Ça me rappelle à l'entrée de Normal Sup, où la directrice de l'école nous avait pris tous dans l'amphi. Et Normal Sup, qui est quand même une école assez sélective, enfin, c'est quand même assez compliqué d'y arriver. Il y a un concours d'avoir 3000 personnes qui se présentent. Nous, on était 23 dans la promo de physique. Donc, enfin, ouais. ça réduit quand même. Enfin, c'est quand même un concours assez difficile à l'issue des classes préparatoires. Elle nous prend dans l'amphi, elle nous dit « Bonjour à tous, bravo, vous savez remplir un questionnaire. Maintenant, vous allez apprendre à formuler les questions. » Et on fait « Ah, d'accord. » Non, parce que là, le formulaire, quand même, il était un peu... C'était quand même un petit peu compliqué. Mais en fait, ça remet les pendules à l'heure, justement, sur le fait que répondre aux questions est plus simple que de les imaginer. Pour imaginer les problématiques, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est ce que la directrice disait. Imaginez-vous bien que vous avez beau avoir trouvé les questions difficiles, il y a des gens qui ont imaginé ces questions-là. Et donc, c'était...
C'est un autre niveau.
C'était le niveau d'après. Et c'est là qu'on va aller ensemble.
Cool. Et du coup, des fois, tu te rends compte que pour résoudre un problème business, vous n'avez pas trouvé la bonne question, la manière de bien la poser pour trouver la bonne réponse.
Oui, après, il y a plusieurs. Après, il y a un problème, donc il y a plusieurs manières de poser le problème. Et il peut y avoir des manières différentes de poser un même problème, et qui, lorsqu'on va donner des réponses à chacune, vont nous permettre de façonner une réponse.
Okay. Tu parles beaucoup d'intuition dans cette interview. C'est quelle place ça joue pour toi, et ça veut dire quoi l'intuition en fait? Pour certains esprits scientifiques, l'intuition, c'est un truc bizarre, c'est un truc perché. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « La poulpatitude » par un chercheur à l'EM Lyon. En rencontrant plein de PDG, il s'est rendu compte que l'intuition, elle jouait un rôle important dans la prise de décision de grands entrepreneurs. C'est quoi pour toi et comment tu l'utilises?
Je pense que l'intuition, c'est une conviction qui découle d'une observation complète. C'est-à-dire que ça devient une vision qui vient de plein d'éléments qui, mis les uns à côté des autres, nous font se dire que la réponse à la fois à une problématique et à des capacités réelles, technologiques ou à des réponses qui ont été apportées, eh bien, la combinaison de toutes ces choses-là crée logiquement une suite qui est ce produit-là. Si je parle justement de covoiturage, le fait qu'on réserve ses voyages en ligne, que les voitures soient vides, qu'on fasse des économies en partageant les frais, qu'en plus ce soit bénéfique pour l'environnement et que ce soit social de partager un trajet ensemble, donc en fait on s'ennuie moins en covoiturage que tout seul dans sa voiture, c'est des paramètres qu'on va pouvoir observer. Tout est déjà là, tous ces éléments-là sont déjà là, et on se dit la conséquence logique de cette observation-là, c'est que le covoiturage doit exister. Mais il n'existe pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, on développe une intuition en observant tous les paramètres, en se disant la conséquence de ça, c'est, dans ce cas-là, le covoiturage. Et donc là, on a une conviction, on se dit ça doit exister. C'est-à-dire que si on met toutes les pièces ensemble du puzzle, c'est anormal que ce truc-là n'existe pas. C'est normal que ça n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est une intuition. Alors, on va pouvoir l'articuler, expliquer pourquoi, mais qui devient une conviction, mais qui est le résultat d'une observation.
Donc, c'est beaucoup d'observations déjà. Voir que dans le puzzle, il y a un truc qui manque. Là, il manque une entreprise au milieu qui pourrait s'appeler BlaBlaCar. Et quand tu dis que tu as une intuition, est-ce que tu fais une différence entre quelque chose qui est une intuition pour toi et quelque chose que tu aurais raisonné? Parce que par exemple, il y a Einstein, il parlait d'intuition, je crois que c'était qu'il sentait de l'énergie dans ses mains. Il y en a qui parlent de frissons, d'autres qui parlent qu'ils le savent, d'autres qui parlent, ils entendent quelque chose. Comment tu sais que c'est une intuition et pas... Est-ce que tu fais une distinction entre ça, c'est une intuition, et ça, ça serait un raisonnement juste mental? Est-ce que tu fais une différence ou c'est la même chose pour toi?
Je pense que c'est une intuition à partir du moment où on sait qu'on n'arrive pas à l'expliquer en une phrase. On sait qu'il va falloir du temps pour expliquer pourquoi on pense comme ça.
Et est-ce que tu dirais que c'est « je le sens » en fait? Je sens que c'est ça.
Ça rejoint ça, mais en fait, un intuitif, c'est un peu un hyper-analytique. Justement, lié à l'observation. Donc, on le sent, mais c'est le résultat d'une grande analyse qui ne va pas pouvoir se résumer en une phrase. En général.
Tu le sais, mais tu sais pas exactement expliquer.
Voilà, comment tu sais pas exactement. D'où l'importance du storytelling dont on parlait tout à l'heure, qui est que justement la discipline première de l'entrepreneur qui a son intuition, ça va être de l'articuler de manière rationnelle et donc d'aller étayer son intuition en égrenant toutes les raisons pour lesquelles il pense que voilà, quand on dit A plus B plus C plus D tout de même plus Y plus Z égale l'intuition. Et ce truc-là va arriver. Et donc, mais il faut être capable d'expliquer toutes les composantes. Et c'est là où on se dit que c'est une intuition, puisque c'est une conséquence de toute une galaxie de faits, et non juste A plus B. C'est beaucoup, beaucoup de choses.
Et tu l'as déjà utilisé dans un recrutement, de dire, sur le papier, la personne paraît être la bonne personne, mais je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas qu'on la recrute, ou l'inverse. Ça paraît pas être la bonne personne, ou je sais pas pourquoi il faut qu'on la recrute.
Alors sur les personnes, c'est encore autre chose, parce que c'est moins rationnel. Oui, c'est forcément, ça m'est arrivé en entretien, à la fois de me dire cette personne, j'ai vraiment envie de travailler avec, et enfin, ça m'arrive souvent. Enfin, en entretien, ce que je recherche, c'est vraiment déjà la volonté et les étoiles dans les yeux. Quelqu'un qui vient en entretien pour travailler chez BlaBlaCar et qui vient juste chercher un travail au chaud, ouais, se trompe. Il faut venir avec des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que...
Et comment tu vérifies ça?
Ça se voit, les étoiles dans les yeux. Ça se voit si c'est quelqu'un qui est animé.
Tu poses une question ou tu poses pas de questions et tu regardes?
Tu poses des questions des fois un petit peu sur le côté.
Par exemple,
comment tu fais pour savoir si un lion est daltonien?
Comment je fais pour savoir si un lion est daltonien?
Je te laisse 5 minutes.
Avec cette question. Et donc du coup, tu t'observes.
Non mais voilà, et du coup, tu vois par rapport à quelque chose de complètement orthogonal si la personne réagit en jouant le moment. Ou bien en se disant, oh là là, non attends, ça va remettre en cause mon embauche ou pas. ça donne des éléments sur ce qui va se passer quand cette personne-là va être confrontée à des choses inhabituelles, inattendues. Est-ce qu'elle va paniquer ou est-ce qu'elle va se dire, tiens, un problème intéressant, c'est quand même marrant.
Tu vois si elle est dans le jeu avec toi dans l'entretien. J'en ai une question comme ça qui est pas mal aussi, c'est quoi l'origine de ta prochaine pensée?
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.